Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Les chiffres d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour l'année 2025. Bénévoles, salariés, militants issus de 180 associations ont défilé hier à Lyon. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, estime préférable que Patrick Bruel arrête temporairement de se produire. Coup d'accélérateur dans l'enquête sur le drame de Décines. Et puis nous parlons de la troisième édition du Tribu Brindilles Festival, le 4 juillet prochain au domaine de Lyon-Saint-Joseph à Sainte-Foy-lès-Lyon. Des jeunes aidants qui se réunissent pour une journée à la fois de réflexion et festive. Un reportage de Noam Mouret.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, mais d'abord coup de théâtre pour les automobilistes lyonnais. Les zones à faible émission, les ZFE, sont de retour. Un mois après leur suppression par le Parlement, le Conseil constitutionnel a rétabli le dispositif. Les sages ont censuré la mesure, l'estimant sans lien avec la loi de simplification où elle avait été glissée. À droite, c'est la douche froide. Véronique Sarcelli, la présidente de la métropole, déplore que la fin des ZFE soit ainsi bloquée par un simple motif de forme. Elle promet d'appliquer la loi, mais sans ajouter de contraintes supplémentaires. Du côté de la majorité municipale écologiste, on respire. Pour le maire de Lyon, Grégory Doucet, la ZFE reste un outil perfectible mais indispensable face à l'urgence de santé publique. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes vient d'ailleurs de publier son bilan sur les 20 dernières années. La qualité de l'air s'améliore globalement dans la région. Très peu de dépassements de seuil ont été enregistrés en 2025, donc l'année dernière. Le problème, c'est que la mesure va changer. L'Europe s'apprête à durcir en effet ses normes d'ici à la fin de l'année. Et à l'aune de ces nouvelles règles, plus proche des recommandations de l'OMS, les bons résultats d'aujourd'hui seront les mauvais de demain. Le point noir reste en effet le département du Rhône, le plus exposé de la région, notamment aux particules fines issues du chauffage et au dioxyde d'azote du trafic routier. Autre angle mort, l'ozone boosté par les canicules. L'ozone continue de grimper. Pour Santé publique France, 48 000 décès par an sont encore liés aux particules fines chez les plus de 30 ans. Les autorités appellent donc à ne pas relâcher les efforts. Bénévoles, salariés et militants issus de plus de 180 associations ont défilé hier. Objectif, faire entendre leurs revendications aux nouveaux élus du Rhône et de la métropole. Les représentants du monde associatif sont venus symboliquement déposer un kit à destination de la présidente de la métropole. Pas un euro de moins pour les assos, ont scandé les manifestants au nombre de 1000 environ. Nous sommes aux côtés des associations et elles peuvent compter sur nous dans les prochaines années, a pour sa part lancé Grégory Doucet, venu les soutenir.
La question de l'engagement associatif, de la vie associative, de, tout simplement des associations, c'est une question centrale pour nous, Ville de Lyon. Sur le mandat précédent, on a eu à cœur notamment de sauver le secteur de l'éducation populaire qui était en très très grande difficulté, du fait, on va dire, de l'inflation qui pesait sur tout un tas de leurs coûts de fonctionnement. On a en 2025 augmenté de 2 millions la subvention que la Ville de Lyon octroie au secteur de l'éducation populaire dans cette perspective-là. Et on sait ici, à Lyon, terre d'humanisme, d'engagement, mais aussi terre d'entrepreneuriat, à quel point l'engagement associatif, il est essentiel pour le lien social, ça a été dit à l'instant. Dans beaucoup de quartiers, qu'ils soient populaires ou non, ce sont les actions des associations qui font du lien, qui font que nous faisons société tous ensemble. Et donc c'était important pour moi en tant que maire de venir dire ici que non seulement nous sommes aux côtés des associations, mais elles peuvent compter sur nous dans les prochaines années.
Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon. À l'instar de ses homologues de Brest, Paris ou Marseille, le maire de Lyon estime préférable que Patrick Bruel arrête temporairement de se produire. Le chanteur visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles doit venir à la LDLC Arena en novembre. Dans ce contexte actuel, il est préférable qu'il se tienne à distance des salles de concert pour permettre à la justice de faire sereinement son travail dans le respect de la présomption d'innocence et le respect de la parole des victimes, estime Grégory Doucet. La LDLC Arena indique avoir pris connaissance des accusations visant Patrick Bruel et suivre cette situation avec la plus grande attention. La LDLC Arena précise également que la présomption d'innocence s'applique à ce stade et que dans l'attente d'une décision judiciaire, le choix du maintien ou de l'annulation du concert relève uniquement de la responsabilité des organisateurs. Fin de citation. Coup d'accélérateur dans l'enquête sur le drame de Décines, 10 jours après l'incendie criminel qui a coûté la vie à 3 personnes dans le quartier du Prenet. 4 suspects ont été interpellés interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit de deux majeurs et deux mineurs âgés de 16 à 18 ans arrêtés dans l'agglomération lyonnaise. Selon les enquêteurs, la piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est désormais privilégiée. Le préfet du Rhône a salué une avancée rapide dans ce dossier où les chefs d'accusation sont lourds, notamment homicide volontaire en bande organisée. Pour rappel, le lundi 11 mai, le feu avait ravagé un immeuble de la rue Sully tôt le matin, faisant 3 morts et 14 blessés. Sur place, la solidarité s'organise. Une cagnotte en ligne a été lancée pour venir en aide aux 80 sinistrés, toujours privés de logement. Nouvelle soirée de violence à Lyon. Des coups de feu ont éclaté hier soir dans le 8e arrondissement. Les faits se sont déroulés vers 21h, rue de Narvik, au cœur du quartier Mermoz, dans des circonstances encore floues. Un homme a d'abord été blessé par balle à la jambe, mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Le tireur présumé a immédiatement été pris au partie par plusieurs témoins de la scène et violemment passé à tabac. Il a fallu l'intervention rapide de la police pour disperser la foule et mettre fin à la rixe. Les deux hommes, le blessé par balle et l'auteur présumé des tirs, roué de coups, ont été transportés à l'hôpital. Une enquête est ouverte pour tenter d'y voir plus clair.
Idée, projet, talent, Lyon demain.
À l'occasion de la 3e édition du Tribu Brindille Festival, le 4 juillet, au domaine Lyon-Saint-Joseph à Sainte-Foy-les-Lyons, des jeunes aidants de 7 à 25 ans se réuniront pour discuter, danser, s'amuser et oublier le temps d'une journée, un quotidien qui peut être éprouvant. C'est un reportage de Noam Mouret.
Grandir, c'est déjà apprendre à trouver sa place. Mais pour certains jeunes, cette place se construit aussi aux côtés de problèmes de santé de leur entourage. Cela crée une responsabilité que des enfants, parfois très jeunes, doivent assumer au quotidien. La Pause Brindy, une association lyonnaise, propose un soutien pour ce qu'on appelle des jeunes aidants. Rebecca Billy, coordinatrice, nous explique comment l'association voit les choses.
Pour la Pause Brindy, en tout cas, un jeune aidant, c'est un jeune qui a entre 7 et 25 ans environ, donc un adolescent ou un enfant ou un jeune adulte, qui va soutenir, apporter du soutien à l'un de ses proches, parce que cette personne a un problème de santé. Donc ça va être un jeune, par exemple, dont le papa ou la maman a une maladie ou un handicap ou une addiction, ou dont le frère ou la sœur a un problème de santé, ou dont ça peut être aussi son ami ou son conjoint. Et comme cette personne qui est dans l'entourage du jeune a une difficulté de santé, le jeune lui apporte du soutien parce que cette personne a un problème de santé. Et ces jeunes aidants, ils sont à peu près 1 million en France. On les estime en tout cas à 1 million en France. Si vous voulez, c'est 3 à 4 jeunes dans chaque classe de lycée selon l'étude AdoCare qui s'intéresse aux lycéens. Donc c'est quand même des jeunes qui sont très nombreux, mais qui malheureusement encore aujourd'hui ignorent leur rôle, ignorent ses conséquences, et puis qui sont assez invisibilisés aussi dans cette société qu'on a du mal à repérer et à identifier.
Et alors, comment ça se matérialise dans le quotidien de ces jeunes à travers des tâches concrètes ou plutôt de la charge mentale?
C'est un peu variable en fait, en fonction de la situation. Donc, on parle de pathologies qui sont très variées, d'âges aussi qui sont très différents. Mais si vous voulez, on parle de soutien pluridimensionnel. Les deux premiers types d'aide que les jeunes aidants vont apporter, c'est d'abord effectivement le soutien moral. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment plutôt de la charge mentale, effectivement, ou de l'hypervigilance. On va s'inquiéter, on va se soucier pour son proche, on va le rassurer, on va lui parler, on va être présent pour lui, on va passer le voir, enfin voilà, c'est ce soutien moral qui est une des tâches en fait concrètes dans le quotidien, mais qui est assez immatérielle, assez peu tangible, et donc les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils aident aussi quand ils apportent ce soutien-là. Pourtant, effectivement, c'est une grosse charge mentale. Et puis le deuxième soutien apporté, c'est les tâches du quotidien. Donc par exemple, quand on a un parent qui est malade, ben faire la vaisselle, les courses, les repas, s'occuper de ses petits frères, ses petites sœurs, aller les chercher à l'école, c'est toutes les tâches du quotidien que ferait un jeune. Voilà, qui n'a pas ces problématiques-là, mais de manière plus importante, avec une charge plus importante. Et puis, les autres types d'aide apportées par les jeunes aidants, c'est aussi de l'aide dans les soins. Donc, s'occuper directement de la personne malade, lui préparer ses médicaments, faire des tâches de soins, lui donner à manger, le laver, l'habiller, etc. Donc, aider la personne concrètement. Et puis, ça peut être aussi de l'aide administrative pour les papiers, les dossiers, etc. Voire de l'aide financière dans certains cas. Mais finalement, c'est des tâches concrètes. Préparer des médicaments, préparer à manger. Mais c'est aussi des tâches assez peu tangible, s'inquiéter, rassurer, s'adapter à la situation. C'est ce qu'on parle d'adaptation comportementale. Et c'est vrai que les jeunes aidants vont faire un peu ces tâches de manière très variée en fonction de la situation. Mais pour nous, à la Pause Brindy, il n'y a pas de hiérarchie de ces situations-là. On va vraiment accueillir tous les jeunes, quel que soit ce qu'ils font pour leurs proches, en partant du principe que tous ces jeunes peuvent être impactés par cette situation et donc peuvent avoir besoin d'un espace où parler, être rassurés, réconfortés, être soutenus, finalement.
Vous proposez régulièrement des brins de partage. À quoi servent-ils concrètement et puis qu'est-ce qui s'y joue?
Alors, les brins de partage, c'est des activités de répit, donc où l'idée, c'est qu'un groupe de jeunes aidants par tranche d'âge, donc on va avoir des groupes pour les enfants qui ont entre 7 et 12 ans, pour les adolescents qui ont entre 13 et 17 ans, et pour les jeunes adultes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, c'est des groupes de jeunes qui se rencontrent, donc il y a déjà un côté rupture de l'isolement, tissage de liens, rencontrer d'autres jeunes qui vivent des choses similaires, donc déjà ce côté un peu rencontre et communauté. Et il y a aussi une activité. Donc, l'idée, c'est aussi de se vider la tête, de s'amuser, de faire quelque chose que n'importe quel jeune pourrait faire. Donc ça peut être une activité cuisine, une activité sportive, une sortie au laser game. Enfin voilà, ça peut être une activité que tous les jeunes ont, enfin que les jeunes ont choisi, en tout cas les jeunes de la communauté de la Pause Brindille ont choisi. Donc il y a vraiment un côté tisser des liens, se rencontrer. Il y a aussi un côté répit, se vider la tête, s'amuser, et il y a un côté potentiellement parler de sa situation avec d'autres jeunes. Donc c'est vraiment tout ça, les brins de partage, et ça dépend des envies et des besoins des jeunes qui sont accueillis dans les activités. Donc plus concrètement, on va dire que c'est des temps qui sont réguliers, mensuels, ou en tout cas pendant les vacances scolaires pour les plus jeunes d'entre nous, pour les plus jeunes qu'on accueille. C'est des temps qui sont gratuits, qui sont adressés à un petit groupe de jeunes, entre 8 et 12 jeunes, selon les activités. Et vraiment, l'objectif, c'est voilà, s'amuser, se retrouver, se faire des amis, parler si on en a envie et besoin.
On comprend que le rôle de jeune aidant ne se résume pas à une liste de tâches. C'est aussi une charge mentale, une vigilance permanente, comme c'est le cas d'Alice, qui nous raconte son histoire personnelle.
Moi, je suis jeune aidante de ma grande sœur qui a des addictions et de mon père qui a une dépression à cause de douleurs chroniques que je partage avec lui.
Alors, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce genre d'événement chez la Pause Brindille et notamment les brins de partage?
Je viens chercher du répit, un peu une grande pause pendant ma journée, et puis de l'amusement et du lien avec d'autres jeunes comme moi.
Et pourquoi beaucoup de jeunes ne se reconnaissent-ils pas eux-mêmes comme aidants?
Moi, mon expérience personnelle, c'est que je l'ai su il y a 2 ans, quand j'ai été trop envahie par la situation et que j'ai appelé la Pause Brindille. C'est là qu'ils ont nommé pour la première fois que j'étais jeune aidante. Et je pense que ce qui a fait que je n'en avais pas conscience, c'est déjà que j'avais pas conscience du problème, que c'était pour ma sœur surtout à ce moment-là, et aussi du fait que ça avait un impact sur moi. Je n'avais pas conscience que ça me posait problème et que j'avais le droit d'avoir ce problème avec cette situation.
À quel point cette charge d'aidante, elle est importante?
Moi, elle est constante. C'est toute la journée, 24 heures sur 24, je me demande est-ce que ma sœur va bien, est-ce que mon père va bien, est-ce que les gens autour d'eux vont bien du coup aussi, parce que ma sœur elle est maman, donc je me pose la question pour son fils. Puis en fait, pour moi ça ne s'arrête jamais d'être aidant. Je suis tout le temps dans ce lien-là, et puis ma sœur, je peux plus en profiter comme une sœur. C'est avant tout celle que j'aide, je la vois plus que comme ça, que comme une personne qui dépend de moi.
Et quel message t'aimerais faire passer à travers ce témoignage?
Moi j'aimerais que les gens comprennent que je peux pas arrêter d'être aidante, même si ça me pèse. Que je peux pas juste dire « Ok, c'est bon, j'arrête, c'est ma sœur, mais je suis plus son aidante. » Et j'aimerais que les gens aussi, ils entendent que nous, tout ce dont on a besoin, les jeunes aidants, c'est d'être reconnus, d'être identifiés et d'être accompagnés.
Être jeune aidant ne se résume pas à se porter garant d'un proche, c'est aussi apprendre à exister avec cette responsabilité. Reste désormais à reconnaître ces jeunes pour qu'ils ne soient plus seuls à porter ce rôle, souvent invisible, ou enfermé dans cette case de jeune aidant.
Merci Noam, c'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, c'est aussi la fin de la semaine. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Excellente journée.